Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, la fête de Saint-Joseph artisan nous est une occasion chaque année de méditer sur le sens chrétien du travail. Dans l'histoire de l'humanité, le travail est apparu dès le premier homme. Au livre de la Genèse, on voit Adam placé par Dieu dans un paradis de délices, non pas pour qu'il y soit comme en vacances, se promenant, se reposant, mais pour qu'il le travaillât et le gardât. « Ut operaretur et custodiret illum », dit le texte. C'est que l'homme a été créé à l'image de Dieu, et Dieu ne cesse pas d'agir. Il est même acte pur, toujours en activité. « Mon Père agit jusqu'à maintenant et moi aussi j'agis », dit notre Seigneur. La vie intime de Dieu, c'est une activité incessante de connaissance et d'amour entre trois personnes divines. Et par rapport à la création, Dieu ne cesse d'agir pour la maintenir dans l'existence et la gouverner à tout instant, à toute seconde. Même lorsque le livre de la Genèse nous dit que Dieu s'est reposé le septième jour, saint Thomas d'Aquin dit qu'il ne faut pas mal interpréter ce texte. Dieu s'est reposé dans le sens où il a cessé de créer de nouveaux êtres, mais il a continué à agir pour maintenir sa création et la gouverner, comme nous venons de dire. D'ailleurs, dire qu'il crée une âme à chaque fois qu'il y a une conception, une âme humaine. Et ce repos relatif de Dieu le septième jour a été mentionné par le Saint-Esprit pour signifier le repos spirituel que les Juifs devaient prendre le jour du sabbat et que nous devons maintenant observer le dimanche après nos travaux extérieurs de la semaine. Créé à l'image de Dieu, l'homme doit donc imiter la vie de Dieu en travaillant. Intéressant de voir que le texte latin utilise le même mot pour l'activité constante de Dieu et pour le travail d'Adam. Operor. Operor. Même chose. Nous devons donc travailler. Mais de quel travail s'agit-il? Dans la Sainte Écriture, Dieu a commandé à Adam de travailler la terre. Dans le Nouveau Testament, saint Paul dit aux Thessaloniciens, « Travaillez de vos mains comme nous vous en avons donné le commandement. » Ou encore, « Celui qui ne veut pas travailler de ses mains, qu'il ne mange pas. » Alors saint Thomas d'Aquin se demande si le travail manuel est obligatoire pour tout le monde. Il répond bien sûr que ceux qui peuvent vivre honnêtement sans travailler de leurs mains ne sont nullement en soi tenus de se livrer à cette sorte de travail. Il en est en effet, dit-il, du commandement du travail manuel donné par saint Paul comme du commandement du mariage donné par Dieu à nos premiers parents. Croissez et multipliez-vous. Ce sont des commandements de la loi naturelle qui regardent le bien de la multitude, mais qui n'obligent pas tous les individus. De la même manière que le commandement du mariage ne s'adresse pas à tous les hommes, parce que pour le bien commun de la société, il est nécessaire que certaines personnes s'adonnent à la contemplation, et bien de même ici, si l'on regarde le bien de la multitude, tous ne sont pas tenus au travail manuel. Et parmi les occupations des hommes, saint Thomas d'Aquin distingue le travail manuel et les œuvres spirituelles qui servent à l'utilité commune, et il en cite quatre en exemple, il y en a d'autres. Exercer le métier de juge, prêcher, chanter l'office divin, enseigner. Et ceux qui sont adonnés à ces travaux spirituels sont excusés du travail manuel pour deux raisons, dit-il. Parce qu'il faut qu'ils soient totalement occupés à ces sortes de travaux spirituels, et parce que ceux à qui ils sont utiles leur permettent de vivre par leur travail manuel. Ceux qui font le travail manuel permettent de vivre à ceux qui ont des occupations plus spirituelles. Et ce fut d'ailleurs l'intuition de saint Dominique lorsqu'il dispensa du travail manuel les prêtres de son ordre, pour qu'ils puissent s'adonner complètement à la prière, à l'étude et à la prédication pour le salut des âmes, tandis que les frères convers, outre leur vie de prière et de sacrifice, le plus important, eh bien, s'occupent en même temps de la marche matérielle des couvents. Au paradis terrestre, le travail était toujours agréable et se faisait sans fatigue. Mais cela ne dura pas longtemps. Dès le chapitre 3e du livre de la Genèse, nous assistons au péché d'orgueil de nos premiers parents et nous lisons la sentence de Dieu à Adam « Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front » et à Ève « Tu enfanteras dans les douleurs » ce qui englobe tout le travail de la mère de famille à la maison pour l'éducation de ses enfants, puisque l'éducation est la suite nécessaire de la génération. Aussi, le travail qui était toujours agréable avant le péché, eh bien, le travail comporte maintenant, du moins à certains moments, un aspect pénible qui est la conséquence du péché, qui est la pénitence que nous méritons à cause de nos péchés. Et si nous acceptons cette pénitence, si nous l'accomplissons généreusement, eh bien, par le travail, nous réparons nos fautes et celles du prochain. Le travail a maintenant une valeur rédemptrice. Bien sûr, le travail n'a pu avoir cette valeur après la faute d'Adam qu'en vue et en vertu du sacrifice du calvaire, sacrifice qui seul peut donner une efficacité rédemptrice, réparatrice du péché, à nos actions pénibles. Et dans la mesure, bien sûr, où nous faisons un avec notre Seigneur par la grâce, par l'état de grâce. Nous sommes loin ici des fausses conceptions du travail qui ont pris naissance dans les temps actuels. Si le pape Pie XII a institué la fête d'aujourd'hui, c'est en particulier pour faire contrepoids à la fête du travail instituée par les communistes le 1er mai, avec leur défilé dans les rues de nos villes. Pour le marxisme, l'histoire de l'humanité n'est que l'histoire de la transformation progressive du monde par le travail et de la transformation progressive de l'homme lui-même par son propre travail. C'est une nouvelle humanité qui se crée ainsi progressivement par la révolution marxiste, disent-ils, parce que cela ne peut pas se prouver. Ils ne le prouvent pas. En face de cet orgueil athée, eh bien, Pie XII dresse la figure de Saint Joseph. Saint Joseph se soumet au contraire humblement au plan de Dieu qui nous a donné le travail comme moyen de racheter nos péchés et de sauver des âmes. En unissant les peines et les efforts de nos travaux quotidiens à la croix de Jésus. Et ici, qui, plus que Saint Joseph, a jamais pu et pourra jamais donner à son travail cette valeur rédemptrice? Lui qui, par son labeur, nourrissait celui qui était venu racheter le monde par son sacrifice de la croix. Des découvertes récentes ont même montré que le bois dont se servait Saint Joseph pour construire ses charpentes était le même bois solide que les Romains utilisaient pour crucifier les condamnés. Mais il est une autre erreur à propos du travail et qui malheureusement est entrée dans l'Église à la suite du Concile Vatican II. Saint Pie X nous avait averti qu'il n'y avait aucun point de la doctrine catholique que les modernistes laisseraient intacte. Ils ne font donc pas s'étonner que la signification du travail ait été, elle aussi, déformée. En canonisant Mgr Escrivá de Balaguer, fondateur de l'Opus Dei, l'Église conciliaire a cherché à canoniser une conception du travail qui va à l'inverse de la conception catholique. Et c'est très grave. Et c'est encore une canonisation que l'Église catholique ne pourra jamais accepter lorsque les choses seront revenues dans l'ordre. Mgr Escrivá fait un contresens sur le deuxième chapitre de la Genèse. Nous avons vu Dieu mettre Adam dans le paradis terrestre pour y travailler. Mgr Escrivá en conclut qu'Adam a été créé pour travailler, comme si c'était l'essentiel de sa vie terrestre. Et il en déduit alors que c'est la vie extérieure de travail de chacun qui est la source et qui donne son élan à la vie intérieure. Mais c'est justement ceci, l'hérésie des œuvres, qui avait pourtant été condamnée depuis longtemps par l'Église, mais qui était très présente dans le Concile. Saint Joseph nous enseigne au contraire, par son exemple, que ce n'est pas le travail en lui-même qui sanctifie. Ce qui sanctifie, c'est l'amour de Dieu et du prochain avec lesquels nous accomplissons notre travail. Et cet amour de Dieu et du prochain vient de notre vie intérieure. Saint Joseph n'était pas un activiste qui s'étourdissait dans le travail. Il travaillait que pour procurer à Jésus et à Marie ce qui était nécessaire à une vie décente, mais simple, afin, lui, de rester libre pour Dieu. Bien sûr, aujourd'hui, la vie moderne ne permet que rarement le travail paisible qui pouvait être celui des temps anciens. Mais il est nécessaire de se garder du temps pour l'oraison et la lecture dans le silence. C'est une question de volonté et d'organisation, et c'est vital. Et c'est cette vie de prière, cette vie intérieure, qui permet de mettre le travail à sa juste place. Contre une idolâtrie du travail qui, parfois, chez les pères de famille, fait négliger leurs devoirs familiaux envers leur épouse et leurs enfants, plus le temps de parler à l'épouse, plus le temps de parler aux enfants. Eh bien, rappelons-nous que la mission essentielle de Saint Joseph ne fut pas de travailler dans son atelier ou d'installer les charpentes sur les toits pour le plaisir qu'il pouvait y trouver et parce qu'il y avait un don certain. Mais sa tâche principale fut d'être l'éducateur parfait de notre Seigneur, tenant auprès de lui la place de Dieu le Père, gouvernant la Sainte Famille avec une prudence et une sagesse accomplie au milieu des tribulations de la naissance et de l'enfance de Jésus, uni à son épouse d'un amour tendre et chaste, en protégeant la virginité qui lui était nécessaire pour être la mère du Sauveur. Et tout cela venait de sa vie contemplative. Le 1er mai, c'est aussi le premier jour du mois de Marie. Comment ne pas rapprocher les enseignements de la fête d'aujourd'hui avec ce que demande Notre-Dame de Fatima pour sauver le monde? Il ne faut pas oublier qu'outre la communion réparatrice des premiers samedis, mais qui n'a lieu qu'une fois par mois, la Vierge Marie ajoute une demande qui concerne notre vie de tous les jours. À maintes reprises, pendant les précieuses heures que je passais en sa compagnie, dit sœur Lucie, Notre-Dame insista sur l'accomplissement du devoir quotidien selon notre condition de vie et l'offrande de cet effort en réparation de nos péchés et pour la conversion des pécheurs. Ceci, écoutons bien, ceci est la condition fondamentale qui nous permettra de repousser le flot des forces du mal qui menace de submerger le monde aujourd'hui. Extraordinaire. Le flot des forces du mal menace de submerger le monde. Comment pouvons-nous le repousser ? Par l'accomplissement de notre devoir quotidien. Offert en réparation de nos péchés et pour la conversion des pécheurs. Le plus important, continue sœur Lucie, est l'accomplissement du devoir quotidien et l'offrande des sacrifices nécessaires à l'accomplissement de notre devoir pour les pauvres pécheurs. Et il s'agit même des devoirs les plus humbles. Pour lui demander de répandre la communion réparatrice des premiers samedis, l'enfant Jésus est apparu à sœur Lucie alors qu'elle sortait les poubelles. C'est magnifique. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dira, même lorsqu'on ramasse un fil tombé par terre. Alors que Saint Joseph et la Vierge Marie nous enseignent le trésor de salut caché dans les moindres actions de nos journées, si nous sommes en état de grâce, et si nous correspondons à la volonté de notre Seigneur du moment présent. Demandons cette grâce au cours de cette messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.